Voici ce à quoi une parabole est semblable. Écoutons deux d'entre elles au chapitre 13 de l'Évangile selon Matthieu. Verset 1. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Il se rassembla auprès de lui de si grandes foules qu'il monta dans un bateau et s'y assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla longuement en parabole. Il disait, je saute plusieurs versets, je passe au verset 44. Voici ce à quoi le règne des cieux est semblable. Un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie il va vendre tout ce qu'il a pour acheter ce champ-là. Voici encore à quoi le règne des cieux est semblable. Un marchand qui cherchait de belles perles, ayant trouvé une perle de grand prix, il est allé vendre tout ce qu'il avait pour l'acheter. Deux paraboles, et vous l'avez compris, ici ça veut dire deux récits, et ici des récits relativement brefs, et parmi sans doute les plus brefs. J'y reviendrai tout à l'heure, mais deux choses à signaler déjà, c'est que d'abord Jésus enseigne, et ici et dans tout ce chapitre, il le fait en racontant des histoires, des paraboles. Et le sujet ici, c'est le règne des cieux, c'est la deuxième chose. Voici ce à quoi il ressemble. Mais j'ai envie de vous dire, mais à quoi il ressemble d'ailleurs? Parce que pour moi, une parabole, c'est intriguant. Déjà, cette expression, règne des cieux. Alors, ça dépend des traductions. Ça peut être royaume des cieux, ça peut être royaume de Dieu. Cette expression, apparemment, elle semble claire pour les personnes qui écoutent Jésus. Parce qu'on ne voit pas Jésus l'expliquer. Mais en même temps, ça peut faire hésiter quand même, parce que Jésus prend soin de... Il entreprend de le décrire, ce royaume. Donc si c'était si transparent, pourquoi est-ce qu'il l'illustre, est-ce qu'il le décrit comme ça? C'est la question que je me pose. Alors peut-être pour vous, pour beaucoup d'entre vous, pour tous, j'en sais rien, l'expression, elle paraît très très claire. Excusez-moi, pour ce qui me concerne, eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas avec certitude. Alors, je pourrais jouer le rôle du pasteur qui sait tout, qui fait semblant de savoir, mais c'est pas mon style, alors je ne vais pas le faire. Alors, bien sûr, je connais les idées qu'on peut se faire à propos du sens de l'expression, voilà. Mais je me demande si, d'une part, nos idées, nos imaginations, et d'autre part, ce que Jésus, lui, il avait en tête, c'est toujours la même chose. Donc j'ai déjà un point d'interrogation. Et je le dis aussi parce que ça me permet d'illustrer un phénomène qui est relativement fréquent dans les paraboles, et pas que dans les paraboles, mais il peut y avoir des mots, il peut y avoir des expressions, ou tout bêtement des habitudes culturelles qui sont présentées et que nous ne sommes pas toujours sûrs de saisir, mais qui faisait peut-être moins de difficultés pour les auditeurs directs de Jésus. Donc, je dirais, les paraboles sont intrigantes parce que, parfois, à cause du décalage culturel, je me rappelle d'un ami, camerounais. On lui a demandé de raconter une histoire camerounaise. Et il a résisté tant qu'il pouvait, puis il a raconté l'histoire, et puis à la fin il riait, et puis nous, on riait. On ne comprenait pas pourquoi il fallait rire. Ah, peut-être qu'il nous a bluffé, j'en sais rien jusqu'à aujourd'hui. Donc, intriguant à cause du décalage culturel, et intriguant parce que pourquoi décrire une réalité si elle est si familière pour les auditeurs? Et puis, deuxième chose, je comprends ensuite qu'il y a une comparaison. Ce royaume, il est semblable à un homme qui trouve un trésor caché dans un champ. Il cache le trésor et il va acheter le champ. Un homme qui a trouvé une perle, peut-être qu'on pourrait paraphraser en disant c'est comme un philatéliste, hein, qui a une collection de timbres de grande valeur, qu'il a enrichi au fil des années, et puis tout d'un coup il trouve le timbre. Voilà. Et il va vendre toute sa collection pour acheter celui-là. Donc une comparaison, mais en lisant ces textes, je me dis, mais la comparaison, elle porte sur quoi ici ? À nouveau, je suis intrigué. Est-ce qu'il faut comprendre que le... Alors, je me servirai juste de la deuxième, de la première parabole. Est-ce qu'il faut comprendre que le royaume, eh bien, c'est le trésor ? Ou bien, est-ce qu'il faut comprendre que le royaume, c'est le champ ? Ou bien, est-ce qu'il faut comprendre qu'il ne faut pas chercher vraiment une correspondance terme à terme pour dire cet élément-là, ça correspond à ça ? Et peut-être la comparaison, elle porte sur l'ensemble. Tout ça, ce mouvement qui est décrit à travers cette image, c'est le royaume. Ça parle du royaume. Ce serait une façon de dire peut-être la démarche de la personne. Qu'est-ce qu'il faut faire pour accéder au royaume de Dieu ? Et on pourrait se dire, Jésus voudrait dire finalement, pour comprendre quelque chose au royaume de Dieu, eh bien pensez à ça. Donc voilà trois possibilités, au moins. J'ai envie de vous dire, est-ce que vous savez, vous, laquelle choisir ? Et puis, j'avoue qu'elle me paraît bizarre, cette histoire. L'important, je me dis, c'est... Alors, c'est rigolo, cette histoire, de mon point de vue, en tout cas. L'important, je me dis, c'est le trésor. Et l'homme, apparemment, il le trouve dans un champ, donc il trouve le trésor qui est caché dans un champ, et il va le cacher. Donc, apparemment, il est capable de prendre le trésor et de partir avec, puisqu'il va cacher dans un trésor. Mais alors pourquoi est-ce qu'il achète le champ ? Ça veut dire quoi tout ça ? Alors, voilà, pourquoi est-ce qu'il achète le champ ? Et puis, dans un deuxième temps, ça veut dire quoi tout ça pour nous ? Est-ce que ça veut dire qu'on peut acheter le royaume de Dieu, par exemple ? Alors, je ne fais pas état de ces questions parce que je suis sadique. Je ne les ai pas inventées aussi, je l'ai déjà dit, mais je le redis pour le cas où vous vous poseriez la question. Je ne les ai pas inventées pour vous embrouiller, et encore moins pour compliquer des choses qui sont simples. J'en fais part parce que ce sont mes questions. Juste les questions qui m'habitent. Et ça tourne dans ma tête quand je reprends cette parabole. Et ça me paraît, je dis ça parce que j'y reviendrai tout à l'heure, parce que ça me paraît important. Justement, que ça tourne dans nos têtes. Alors, est-ce que c'est ça, une parabole ? Voici ce à quoi une parabole est semblable, peut-être à une espèce d'énigme. Comme dans certains jeux vidéo, pour ceux qui sont fans, alors c'est pas du tout mon style. Je sais même pas si j'ai joué une fois à un jeu vidéo. Bon, peu importe. Donc vous voyez que c'est très loin de moi. Ou bien des choses plus familières, des grilles de mots croisés, de mots fléchés. Je me souviens avoir pendant des semaines, des mois même, séché sur ce mot fléché et anglais, en deux lettres. Alors c'est « is » la réponse, hein, parce que c'est le verbe « être » en anglais. « is »,« is ». Mais même quand j'avais vu la correction, je comprenais pas la correction. Donc des phrases, des espèces d'histoires cryptées, et il faut décoder. Et pour certaines paraboles, et c'est le cas, à mon sens, de celle-ci, qui est projetée, puis de la deuxième aussi que j'ai pas remis, l'énigme, elle est bien présente. D'autant plus que si vous continuez le texte, eh bien, il n'y a pas d'explication qui est donnée par Jésus. Donc on reste avec cette image de cet homme qui a trouvé les choses qui a trouvé un trésor et qui le cache. Et on se dit, mais qu'est-ce que Jésus veut faire entendre ? Qu'est-ce que Jésus veut me faire entendre ? Et personnellement, je m'interroge, mais je bute. Et je m'interroge et je bute. Est-ce que je dois chercher des correspondances terme à terme, par exemple ? C'est ce qui se passe dans une parabole d'avant. Jésus décrit le semeur qui va pour semer. Il y a plusieurs terrains. Et on dit la semence, et Jésus explique, la semence, c'est la parole de Dieu. Le premier terrain, c'est la personne qui... Donc là, il y a une correspondance terme à terme. Ou bien est-ce que je dois chercher une leçon d'ensemble ? Et puis le reste, c'est un petit peu du décor. Et en tout cas, ça tourne dans ma tête, et je crois que ça tourne, ça peut tourner dans nos têtes. Une parabole est quelque chose de particulier. Quand Jésus nous dit « aimez vos ennemis », par exemple. je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, pour moi, en tout cas, je ne me dis pas, mais qu'est-ce que Jésus a bien pu vouloir dire? C'est compliqué. Je me dis, ce n'est pas du tout ce que je me dis. Je me dis plutôt que j'aurais bien aimé que Jésus dise autre chose. Quelque chose d'un peu plus soft, du style, essayez, hein, d'être un peu plus gentil avec vos ennemis, parce que peut-être... ou bien ayez un peu de patience avec eux, mais bon, tant qu'ils n'exagèrent pas quand même. Parce qu'il y a quand même des limites à tout, quoi. Bon, c'est bon, quoi. Devant aimer vos ennemis, je me dis plutôt, est-ce que je vais prendre ce que Jésus demande? Est-ce que je vais le prendre au sérieux? Ou bien, comment est-ce que je vais faire pour aimer... vous mettez le portrait de celui que vous n'aimez pas. Comment je vais faire pour comment je vais le supporter? Supporter, c'est même pas encore forcément l'aimer complètement. Et est-ce que je suis prêt à en payer le prix, à m'engager dans cette voie? Aimez vos ennemis. Mais la parabole, c'est davantage d'emblée. Ça veut dire quoi, cette histoire? Et parfois, ici, dans le texte, il me semble que ça ne va pas de soi. Et puis, on peut d'autant plus le ressentir devant ce texte que si on reprenait quelques versets avant, dans le chapitre 13, j'ai sauté des passages, on se rendrait compte qu'en fait, c'est une manière délibérée c'est de manière délibérée que Jésus emploie un langage énigmatique, qu'il s'exprime de façon imagée. Parce qu'en voyant, il ne voit pas. Et en fait, il va citer Ésaïe en disant, c'est pour qu'en voyant, il ne voit pas. Pour qu'en entendant, il n'entende pas. Donc c'est tout à fait délibéré de sa part. En même temps, dans le même texte, le lecteur n'est pas complètement dans le vague, puisque Jésus l'aide, Jésus explique certaines paraboles. Et ça peut nous aider, ça peut nous inspirer. Et ses disciples, d'ailleurs, ne comprenaient pas eux-mêmes, donc tout va bien, enfin tout va bien. C'est pas étonnant qu'on soit dans la perplexité. Maître, explique-nous, verset 36. Et nous avons la chance de jouir de ces explications. Donc c'est pas de l'ésotérisme. L'ésotérisme, c'est la science qui s'adresse aux quelque chose qui s'adresse aux initiés, aux gens de l'intérieur. Jésus ne veut pas, il raconte pas ça pour mystifier ses disciples, pour les laisser dans le brouillard, juste pour le plaisir. C'est pas ça. Parfois, d'ailleurs, dans d'autres paraboles, le sens est plus évident, plus facile d'accès. Dans l'évangile de Marc, à un moment, Jésus raconte une histoire de vigneron auquel le maître envoie des envoyés et il tue ses envoyés. Et quand Jésus raconte cette histoire, ceux qui l'écoutent, les responsables religieux, on lit « Cherchaient à le faire arrêter, mais ils eurent peur de la foule. Ils avaient compris que c'était pour eux qu'il avait dit cette parabole. » Et puis, pour revenir à Matthieu 13, à notre texte, on voit qu'après la partie que j'ai lue, donc Jésus cite plusieurs paraboles, Jésus à la fin va demander « Comprenez-vous? Est-ce que vous avez compris ?» Et eux répondent « Oui ». Moi, en lisant, je réponds, mais je ne suis pas bien sûr. Mais voilà, mais eux, ils répondent oui. Donc parfois, les paraboles sont bien comprises. Mais là où je veux nous mener, j'y arrive, c'est que qu'elles soient expliquées ou pas, qu'elles soient faciles d'accès ou pas, dans tous les cas, il s'agit d'un langage indirect. Les choses ne sont pas dites de but en blanc. Je rapproche ce qu'il ne faut pas faire ordinairement, mais parce que ce qui est un exercice dangereux, je rapproche de l'étymologie parabole, para à côté, bol, jeter. Quelque chose de jeté à côté. Et là, du coup, j'ai envie de rapprocher des paraboles de nos toits. La parabole relaie ce qui est envoyé à côté. J'ai envie de dire. Comme les paraboles des toits relaient les ondes, ou en tout cas les concentrent pour les transmettre, c'est le fait de renvoyer en écho. Je ne suis pas très, très bon pour la technique, peut-être je dis des bêtises à propos des paraboles des toits. Mais bon, voilà. Mais j'ai l'impression que ça se rejoint. Il y a quelque chose qui est jeté comme à côté, et qui a besoin en tout cas que ça rebondisse pour que nous y ayons accès. Il y a un décodage qui est nécessaire. C'est pas forcément compliqué, mais c'est pas jeté directement comme aimez-vous les uns les autres. Et en même temps, dans les paraboles bibliques, on n'est pas toujours sûr, je ne suis pas toujours sûr en tout cas, d'avoir bien décodé. Parce que la différence d'un escape game, par exemple, ou d'un jeu vidéo, un jeu informatique, quand on médite la parabole, quand vous êtes dans un escape game, paraît-il, je ne suis jamais allé dans un escape game, mais certains parmi nous, je le sais, ils sont allés, vous leur poserez la question, quand vous avez trouvé la clé d'énigme, normalement, il y a une porte qui s'ouvre, ou quelque chose qui s'ouvre, et vous passez à la chose suivante. Et puis à la fin, normalement, la porte s'ouvre et vous sortez, si vous avez résolu les énigmes, bien sûr. Ou bien dans un jeu vidéo, vous avez l'énigme, vous avez réfléchi, enfin vous avez trouvé, vous avez un message qui s'affiche, bravo, vous êtes arrivé au niveau numéro 10, c'est fantastique. Donc là, vous avez la certitude d'avoir trouvé la solution de l'énigme. Et du coup, on peut s'en sentir très, très satisfait. Qu'est-ce que je suis bon, éventuellement. Voilà. Mais avec la parabole, c'est pas ça. On est davantage dans la situation de quelqu'un qui rend une copie d'examen et qui est, c'est ça qui compte pour moi, qui est dans l'attente de la correction. Alors bien sûr, parfois, on a rendu la copie, on est sûr d'avoir réussi. Parfois, on est sûr de n'avoir absolument pas réussi. Et parfois, ben, on ne sait pas très bien. Peut-être que oui, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Mais en fait, tant qu'on n'a pas la note, je suis sûr d'avoir réussi, puis quand j'ai vu la note, ben, j'ai compris que je n'avais pas aussi bien réussi que ce que je pensais. Dans tous les cas, on est dans l'expectative. On ne sait jamais. Et on attend le résultat. Et en attendant, ça tourne peut-être dans notre tête, comme la parabole vient tourner dans notre tête. Voici ce à quoi une parabole biblique est semblable. Elle ressemble à une énigme. Une énigme qui nous prend parfois la tête. Une énigme qui nous stimule, comme les autres énigmes qui représentent un défi, alors qu'il peut être intellectuel, mais ça peut être aussi un défi manuel. Hein. Voilà un casse-tête chinois, je ne sais pas trop ce qu'il faut en faire, j'ai juste pris l'image, je ne veux pas savoir ce qu'il faut faire avec ça, je ne veux pas avoir ça entre les mains. Voilà, défi manuel, ou bien des défis tout simples de la vie ordinaire, comme quand le paysan se demande ben, comment le renard a réussi encore à lui bouffer une poule. Il voit franchement pas comment le renard a pu passer, mais le renard est passé. Il est passé par où? Il s'est débrouillé comment? Et cette énigme, elle nous appelle. Elle nous laisse pas en repos. Surtout si on est soucieux des poules. Bon, si on s'en fiche qu'il les bouffe toutes, bon, c'est pas grave. Mais ça nous reste. Et tant qu'on n'a pas trouvé l'endroit où l'animal s'est faufilé, ça travaille, et on travaille et on cherche. Et ces énigmes, évidemment, dans la Bible, elles sont d'autant plus importantes et elles peuvent nous travailler davantage que nous souhaitons, que nous voulons prendre au sérieux ce que Jésus dit. Surtout si nous sentons que c'est bien d'essentiel qu'il s'agit. Comme disait un ami, je sais pas là, il faisait du porte-à-porte pour annoncer l'Évangile. Il dit, je suis pas là pour vous vendre des savonnettes, j'en ai rien à cirer. C'est autre chose dont j'aimerais parler avec vous si vous voulez bien. Surtout si nous sentons qu'il s'agit là d'une réalité qui vaut qu'on lui sacrifie tout le reste, qu'on vende le reste de la collection de timbres, et même le timbre le plus important par rapport à cette réalité-là. Ça compte moins. Quand on pressent l'importance, quand on pressent la valeur de l'enseignement de Jésus. Même si nous ne sommes pas sûrs de comprendre, au fond, est-ce que ce n'est pas quelque chose comme ça, cette valeur de l'enseignement de Jésus que nous fait sentir cette histoire? Voici à quoi ton enseignement, Jésus, est semblable. Tu enseignes en langage direct, aimez-vous les uns les autres, et tu enseignes en langage indirect. Tu racontes des histoires qui sont toutes simples, apparemment. Mais quand tu parles en parabole, comme le chantait quelqu'un, peut-être certains connaissent ces chants, mais je reprends, je paraphrase, quand tu parles en parabole, Dieu n'est pas un pur esprit, Dieu n'est pas un concept, Dieu n'est pas une définition, une doctrine, un savoir, un credo, ne dis pas que ça n'a pas d'importance. Je dis que dans les paraboles, ça, c'est pas ça. Quand tu parles en parabole, Dieu ne se dit pas par une liste d'adjectifs grand, tout puissant, fort, etc. Dans la parabole, Dieu prend le visage d'un père. Un père qui attend son enfant qui a claqué la porte. Il y a des jours, des semaines, des mois, des années. Et qui attend. L'enfant qui a claqué la porte, l'enfant qui est parti avec la fortune et qui a claqué la fortune aussi. Dieu prend le visage d'un musicien, d'un joueur de flûte, sur la place de Villefontaine. Il joue de la flûte et les gens passent, comme dans le métro. Le musicien est là et les gens passent sans s'arrêter. Ou bien Dieu prend le visage d'une femme, cette femme inquiète, désespérée. Elle a perdu ses papiers, elle a perdu sa carte bancaire, peut-être. Dieu prend ces visages-là, le visage de quelqu'un dont le règne se trace et se décrit de manière inattendue, détourné, jeté à côté, et une manière qui nous interroge. Quand tu parles en parabole, Jésus, tu ne nous dis pas un ensemble de consignes. Voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Et on est même très étonné d'ailleurs de ce que font certains personnages des paraboles. C'est Luc qui commentait, je crois, le récit de l'économe bizarre. On pourrait avoir des paraboles du style « Le royaume de Dieu, c'est comme un astrologue. » Ouais, c'est un personnage louche, quoi. Mais on a des personnages comme ça dans les paraboles. Et dans les paraboles, en même temps, Dieu, son royaume, se disent, s'enseignent, se donnent au moyen d'images, un peu comme des peintures, tantôt réalistes, tantôt abstraites, tantôt impressionnistes. Peinture impressionniste, c'est des petits points, vous savez, on a une esquisse, on a une image qu'on reconnaît, mais qui n'est pas nette. Voici ce à quoi, Jésus, ton enseignement est semblable. Des mots directs et des images aussi, de toutes les couleurs, des registres divers, qui ont un côté du coup fascinant, qui a un côté troublant, qui font naître parfois la perplexité, l'interrogation. Alors l'interrogation qui parfois en appelle au cérébral, mais qui ne se limite pas à ça. Un peu peut-être comme un chant qu'on entend, on passe et on entend, et il y a quelque chose qui se met à vibrer en nous. On discerne peut-être pas bien les paroles, parfois on les discerne, mais même, c'est plus que les paroles. Parce que dès que ce chant retentit, bien, il y a quelque chose qui... Il y a d'autres aspects de notre être qui se mettent en vibration. On commence à battre la mesure. C'est pas calculé tout ça. On n'est pas non plus dans l'exact... On est dans la comparaison, on est dans l'image. Voici ce à quoi, Jésus, ton enseignement est semblable. Parfois, tu disposes tout devant nous, de manière explicite, presque prémâchée. Le travail, c'est pas un travail de compréhension, il se passe ailleurs. Et parfois, tu ne nous mâches pas tout le travail. Une parole nous est donnée, alors nous cherchons à en faire le tour, nous cherchons à l'assimiler, à la classifier, à la ranger dans nos cases toutes faites. Voilà la définition du royaume de Dieu, voilà la définition de Dieu. Oui, ça veut dire ça et pas autre chose. Bon, c'est bon, j'ai bien compris, tout va bien, je passe à autre chose. Alors qu'il s'agirait parfois, peut-être souvent, qu'il se passe autre chose. Alors qu'il s'agirait de refuser, de chercher à prendre ces mots et les mettre dans des boîtes, mais de laisser ces mots nous échapper pour mieux les laisser nous travailler, pour laisser cette parole nous malaxer, nous interrompre du coup et nous perturber. Parce que nous trouverions là, sollicités au-delà même de ce que nous pourrions attendre. C'est comme si je vous parle de l'eau. Ça vous donne peut-être soif d'ailleurs. Mais c'est bien de parler de l'eau, H2O, etc. Mais c'est pas la même chose que de la boire. Il se passe autre chose quand je bois l'eau et quand j'en parle. Ton enseignement, Jésus, est semblable à des images, certaines sont des photos, d'autres des clairs-obscurs, où l'on a de cesse de chercher à se repérer. Et ce faisant, nous voilà travaillés. Nous voilà en quête pour entendre quelque chose qui vient nous faire bouger, nous étonner. Telle est la réalité dont nous parle Jésus. Elle se dit sous différents modes, elle se dit sous le mode prophétique, elle se dit sur un mode direct, du jeter directement, et explicitement à notre oreille, notre pensée, notre regard, et elle se dit aussi sous le mode de l'image, de l'indirect, du jeter à côté. Dans la Bible, on a des textes de loi, tu ne tueras pas, on a des textes méditatifs, tout est vanité. On a aussi des récits, des histoires, et on a des paraboles, on a des approximations, des images. Et je crois que là, j'y insiste parce que la parabole est peut-être ce qui nous fait le plus sentir que l'enseignement biblique est parfois plus efficace ou efficace autrement quand il est indirect que quand il est direct. Et je suis touché de voir que le royaume de Dieu, il se dit... Il se donne de différentes manières. Il s'entend à l'aide de l'intellect, sans doute. Et il s'entend aussi par la sensibilité. Il s'entend aussi par l'imagination. Parfois, il en appelle à notre peur. C'est des paraboles que je n'ai pas lues. J'ai choisi, pour une question de temps, de ne pas tout lire. Et parfois, il en appelle à notre désir. Et c'est bien ce qui se passe pour cet homme. Il a beaucoup de choses, mais il va tout vendre pour ça. Le royaume de Dieu, il en appelle à tout notre être. Il se propose à tout notre être. Et l'Esprit de Dieu qui s'en fait le porte-parole, vient stimuler tout notre être. Je dis en terminant la chose suivante, plusieurs d'entre nous, sans doute, sont très soucieux des mots, du bon mot, de leur littéralité, de leur précision doctrinale, notamment. Et si on n'a pas choisi le bon mot, eh bien, ils vont vite vouloir corriger. Parce que ce n'est pas le bon mot, ce n'est pas comme ça qu'il faut le dire. Leur discours, c'est peut-être je parle de façon générale, leur discours, leur façon de parler de Jésus risque d'être une espèce de compilation de vérité. Et ils entrent d'emblée dans le jeu, dans le moule, si je puis dire, des questions-réponses. Et très bien. Je cherche à nous faire entendre, au travers de la parabole, que Jésus ne fait pas que cela. Et j'avance à partir de là en disant qu'il n'y a pas qu'une façon d'annoncer l'Évangile. Il n'y a pas non plus qu'une façon d'être témoin de l'Évangile. Il y a dans ce que nous sommes, dans ce que nous disons, de la place pour le direct, et il y a de la place aussi pour l'indirect. Une poésie parfois nous bouleverse davantage qu'un exposé sur la... Il y a les étoiles dans le ciel, et puis là il y a telle étoile. Mais ce qui nous le décrit en poésie nous touche autrement. Il y a de la place pour l'affirmation, il y a de la place aussi pour l'énigme, il y a de la place aussi pour les questions. Et je m'écarte davantage du texte, mais je fais entendre aussi, comme il y a de la place aussi à côté de tous les mots que nous pouvons prononcer, ceux que je prononce même aujourd'hui, en ce moment, et ailleurs, pour chacun d'entre nous, il y a de la place pour l'exemple que l'on donne, pour l'amour dont on aime. Et nos mots sonnent creux quand l'exemple que l'on donne vient s'inscrire en décalage par rapport à ces mots. Il y a de la place dans l'Église, dans les églises, pour les érudits, pour les logiciens, mais il y a de la place aussi pour les paysans. Il y a de la place pour celui qui sait simplement s'émerveiller, qui n'a pas les mots pour, puis... mais c'est pas ça important. Il y a de la place aussi pour les poètes. Il y a de la place pour les mots. Il y a de la place pour les silences. Il y a de la place pour la contemplation. J'ai envie de nous dire, à l'écoute des paraboles, laissons-leur de la place aux mots, au silence, à la contemplation. Voici à quoi le règne des cieux est semblable, un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a pour acheter ce champ-là. Voici encore à quoi le règne des cieux est semblable. Un marchand qui cherchait de belles perles, ayant trouvé une perle de grand prix, il va vendre tout ce qu'il avait pour l'acheter. Entendre les paraboles, entendre l'appel de Dieu, nous ouvre tout le champ de l'expectative, de l'attente, du désir et de l'investissement de tout notre être. Seigneur, trouve-nous, chacun, communautairement et individuellement, investis. Ancrés dans le profond de notre désir et d'un désir qui entend combien c'est toi qui le comble. Merci d'accompagner chacun des frères et sœurs ici, chacun d'entre nous. Amen. Et je passe la parole à Jacques, si tu veux dire quelque chose.